Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien, pour vous accueillir dans l'émission Ensemble, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir une personnalité tout à fait étonnante, extraordinaire et un artiste très très attachant. Il s'agit de Didier Delpeu. Alors si vous êtes chartrain, forcément vous le connaissez. Vous avez d'ailleurs vos enfants peut-être participé, assisté à ces ateliers au sein de l'association Arecibo. Toujours est-il que je suis vraiment très heureux de vous accueillir. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors on est ensemble pour parler de vous, de votre travail et puis d'un projet. Ça sera dans la troisième partie de l'émission, un projet qui me paraît très très intéressant. On va dire à mi-chemin entre l'art et l'écologie. Alors tout d'abord, on va faire un petit portrait si vous voulez bien. Dans quel milieu avez-vous grandi? Vous êtes chartrain?
Alors oui, je suis né à Chartres de parents qui sont nés à Chartres et puis à Luisan. Et donc je suis à Chartres et en Eure-et-Loire depuis au moins 350 ans.
Comment vous avez traversé l'enfance, en fait? Est-ce que vous l'avez traversé en lisant, en rêvant ou en courant après un ballon ou les trois, pourquoi pas,
hein? Alors, la lecture, c'était évidemment quelque chose de très important pour moi qui a grandi au fur et à mesure. J'ai eu la chance de vivre dans un quartier de Chartres qui était très très agréable à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas s'il l'est, il l'est plus, hein. C'était le quartier Saint-Cheron. Et puis, c'est une vie très tranquille, très amusante. On avait vraiment beaucoup d'espace vert. On avait des tas d'amis qui grandissaient en même temps que nous. Et ça, c'était assez formidable. J'étais le troisième d'une fratrie de quatre. Donc, ça aussi, c'était quelque chose de très important. Et puis, j'ai eu une enfance tout à fait ordinaire et tout à fait épanouissante.
Ouais. La lecture, donc, c'était central. Quel livre, quels ont été vos premiers coups de cœur, tiens?
Alors, franchement, ça a été tout azimut. C'est-à-dire que j'étais un mangeur de livres à une époque. C'est-à-dire que je mangeais 3-4 livres par semaine. Ouais. C'était quelque chose qui me... au détriment d'ailleurs du
travail scolaire.
Ah ben oui, c'est forcément.
On va pas tout faire non plus.
À un moment ou à un autre, forcément le travail s'en ressentait, mais et ça pouvait être absolument n'importe quoi, du roman de gare, vraiment des classiques. Manon Lescaut, je suis parti dans tous les sens possibles. Avec peut-être une petite prédilection pour la science-fiction, forcément, et on le découvre après. Mais c'était vraiment une curiosité dans tous les domaines des livres, avec vraiment une envie et puis une faim. C'était ça, c'est pour ça que je dis manger, parce qu'il y avait une... Brassens disait qu'à une époque, il ne lisait plus du nouveau, il relisait parce qu'il avait mal lu. Je refais aussi ce genre de choses, parce qu'il y a des choses que j'ai mangées un peu trop rapidement, et maintenant il faut que les remanger à nouveau pour en apprécier toute la saveur.
Et la rencontre avec l'art, avec le visuel, par exemple, ou avec la matière?
Alors, ça a commencé de façon particulière. C'était pas obligatoirement dans les musées, dans les châteaux. Mes parents nous y emmenaient, mais c'était pas obligatoirement la chose la plus importante pour moi. Certainement, c'est de suivre mon papa, qui était responsable de l'entretien dans une des plus grosses usines de l'agglomération chartraine, à Lucé, de le suivre certains soirs et certains jours fériés pour des actions très particulières. J'ai pu visiter son usine, donc, qui était énorme. J'ai pu y voir, par exemple, dresser une presse de plusieurs dizaines de tonnes et qui avait une poussée de plusieurs centaines de tonnes et qui était tellement grande qu'il a fallu enlever le toit de l'usine, passer une grue géante pour... Et moi, j'étais face à ça avec vraiment une vision esthétique de la machine, et j'étais comme si... Voilà, j'étais face à un musée et à des œuvres d'art. Et donc, mon travail, qui plus tard est arrivé, forcément, a été un tout petit peu nourri avec ce genre de vision.
Avec l'industrie et les machines et le mouvement aussi.
Forcément, et le bruit.
Et le bruit.
Tout ça se mélange forcément à mon travail.
Ouais. Et vous avez fait, évidemment, à l'école, au collège, au lycée, des cours d'art plastique. Alors, à l'époque, peut-être qu'on ne disait pas art plastique encore. Moi, c'était dessin et art manuel. Enfin, bon.
Oui, art plastique, oui. D'ailleurs, ma professeure de collège est devenue maintenant une amie, une collègue, ce qui est très, très amusant. Mais oui, et j'en ai gardé des très bons souvenirs. C'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi à cette époque-là. J'ai beaucoup apprécié les arts plastiques au niveau du collège.
Comment la sculpture s'est-elle imposée à vous ? Est-ce que c'est par le biais de l'intellect en tant qu'elle était pour vous le meilleur moyen d'exprimer une pensée, des idées, ou est-ce que c'était plutôt physique, c'est-à-dire l'envie de vous coltiner la matière comme on malaxe de la pâte à modeler à l'école maternelle, par exemple?
Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs évidents. Il y a le... que je suis plus à l'aise avec, tout de suite je me suis senti plus à l'aise avec la matière, peut-être parce que là aussi encore un effet de mon papa qui était fou de bricolage et de bois, qui nous a tous fait faire lorsqu'on était petit des œuvres en bois. On a tous fabriqué des serre-livres biches ou serre, ça dépendait du modèle qu'on choisissait, mais voilà, ça, on l'a tous fait. Et donc, le volume, très tôt, j'ai travaillé un peu le volume. Et puis arrivé aux Beaux-Arts, Beaux-Arts du Mans, au bout de 6 mois, je savais ce que j'avais envie de faire, c'était la sculpture. Je m'y sentais bien. Le professeur de sculpture, voilà, on avait un très bon contact, il y avait un très bon retour, et voilà, c'était un milieu, je me suis senti arrivé chez moi, en fait.
Ouais. Et bon, je le disais tout à l'heure, votre sculpture, elle est très contemporaine, tant dans son propos que dans le choix des matériaux et de la scénographie. On ne peut pas donner à voir, malheureusement, à la radio, mais évidemment, on peut
y entendre.
On peut consulter votre site, il faut le faire, parce qu'il y a des belles images, il y a des vidéos, etc. On comprend mieux ce que vous faites. Alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est, et vous parliez de science-fiction tout à l'heure, il y a des robots. C'est-à-dire que vos pièces, parfois, sont des robots.
Oui, certaines pièces ont été automatisées, alors au départ avec grosses difficultés, et donc beaucoup de moteurs grillés, de fumée lors d'exposition. Et puis par la suite, ma technicité a progressé. D'une certaine façon avec tristesse, parce que le fait qu'une machinerie, puisque je ne fabrique pas des machines efficientes, mais plutôt des machines déficientes, le fait qu'elles se mettent à cramer, ça pouvait être intéressant, ça faisait partie du principe. Maintenant, lorsque l'exposition est à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi et que la personne vous appelle un peu catastrophée en disant « ça fume, qu'est-ce que je fais ?», on évite la fois suivante que ça fume trop souvent, parce que c'est très difficile pour eux de mettre des gens dans la difficulté comme ça. Donc j'évite maintenant de rendre mes machines trop instables, et j'essaye de stabiliser le système pour que ça soit montrable tranquillement, pas pour des tiers.
Alors tout à l'heure, à l'instant, vous avez dit, je fais pas des machines efficientes, je fais des machines déficientes. Est-ce que parce que le règne de la machine est lui-même déficient ou non?
Alors moi, les machines, je les aime. Donc en fait, les machines que je mets en place, ce sont pas elles qui sont déficientes. Ce sont elles représentent souvent l'humanité, et forcément, elles représentent les déficiences de l'humanité. Elles parlent de nos folies, de nos bêtises. J'ai fait une série qui a commencé. Le système, c'était des oiseaux, Z-O-I-Z-O, qui étaient chargés des 7 péchés capitaux et qui étaient une basse-cour assez ridicule. Voilà, et forcément, ces machines-là ne représentent pas un objet, une machine, mais bien nos déficiences.
Oui. Il y a une part de dérision dans votre travail. Il y a beaucoup d'humour, un regard amusé sur l'humanité.
Oui, oui. En fait, c'est pas quelque chose de. C'est pas du cynisme. Certaines personnes y voient du cynisme. C'est absolument pas ça. C'est un mélange d'étonnement, de déception d'éblouissement. C'est-à-dire que nous sommes tour à tour extraordinaires et ridicules. Et le mélange des deux fait que nous sommes déjà extraordinaires. L'un sans l'autre, peut-être que c'est le yin et le yang, et ça fait vraiment cette. Une fois que c'est mélangé dans le même bol, ça rend les choses assez, pour moi, intéressantes. Et voilà, c'est ce qui nous sauve. Notre médiocrité nous sauve de notre super efficacité, et ainsi de suite. Voilà, nos oppositions font que tout cela, ça me rend très heureux de travailler avec ces déficiences.
Est-ce que finalement le ridicule ne nous sauve pas non plus de l'esprit de sérieux, finalement, de ce savoir ridicule et
exactement.
C'est très libérateur, non?
Oui, oui, tout à fait, d'avoir une mise à distance de soi-même, et puis parce que je m'inclus dans mes œuvres, hein, il ne faut pas imaginer que d'un seul coup je me mets sur la position d'arbitre, et puis en disant voilà. Voilà. Moi, je suis pas comme ça. Et voilà, j'essaie de mettre en place nos côtés ridicules, et puis d'en rire, de faire réfléchir. Je ne viens pas d'une famille où l'art était quelque chose de normal, quelque chose de qui donc. Lorsque je produis une œuvre, je garde en tête l'idée que toute personne doit pouvoir, devant une de mes pièces, y trouver quelque chose. J'essaie qu'ils y trouvent quelque chose. Si c'est juste un éclat de rire, une colère, certains ont de la colère en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Et puis d'autres, voilà, il faut que j'essaie de nourrir tout le monde. Là aussi, il y a un côté, je ne veux pas laisser des gens sur les côtés, pas parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils n'ont pas lu, parce qu'ils n'ont pas vu, voilà. Ça me semble important.
Votre père qui a été si important, on le comprend finalement dans la jeunesse de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Quel regard il jette sur votre travail, le fait que vous soyez devenu artiste, comment il a pris ça?
Ah, ça peut être assez drôle parce que, en fait, mon papa, donc, comme tout technicien, a une vision un peu étonnante là-dessus, en disant mais ça sert à quoi? Tu fabriques des machines, ok, mais elles servent à rien, elles ne fonctionnent même pas bien, donc qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, ça l'a beaucoup déstabilisé pendant très longtemps. Maintenant, il voit que ça s'expose, que ça se montre, que des gens aiment bien. Il ne comprend pas obligatoirement pourquoi, mais je pense que
il prend acte.
Voilà, il l'a accepté. C'était pas évident au départ, même si c'était lui qui a amené le nom et l'adresse de l'école où j'ai passé le concours. Je crois qu'il l'a un peu regretté un petit peu après, mais ça, c'est une autre histoire.
Je voudrais faire un tout petit focus assez rapidement sur une de vos œuvres, parce qu'elle donne le nom à votre site. C'est Mujik Palace, ça pète bien, c'est un titre qui pète vraiment bien. Et c'est une œuvre assez emblématique de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots? Puis les gens iront voir sur le site de quoi il s'agit.
Alors, je mets comme vous l'avez bien compris, je mets des oppositions toujours, hein, le beau et le laid. Eh bien, Mujik Palace, c'est cet alliage, c'est-à-dire le Mujik qui est l'homme, le cerf russe qui ne possédait rien et qui était possédé par la terre. C'est-à-dire que le maître qui possédait la terre le possédait aussi, il avait le droit de vie et de mort dessus. Et puis le mot palace, qui est forcément une opposition, puisque quelqu'un qui ne possède absolument rien ne pratique pas les palaces. Et la structure géométrique que j'ai construite, avec des gros arcs en béton, parce qu'on est dans un milieu un petit peu soviétique. On a des morceaux de bois. Pendant très longtemps, j'ai remplacé les humains par des morceaux de bois, des tout petits morceaux de bois qui dansaient dans mes structures. Qui travaillaient peut-être aussi, parce que la notion de travail est importante. Ils œuvraient, ils besognaient chacun. Alors je ne me rappelle plus combien il y en a, mais il doit en avoir dans les 24, 25 morceaux de bois qui travaillent de concert ou en opposition, voilà, qui c'est chacun dans leur petit coin. Ils ont leur passif, avec tout un petit pack qui est un peu caché. Et puis, ils sont inscrits, ces trois arcs sont inscrits dans un cercle au sol qui est recouvert de sur de bois. Au centre se trouve un petit tumulus dans lequel une petite musique s'échappe. Alors, ce qui est important, c'est que la petite musique est vraiment assez douce. Les mouvements des petits morceaux de bois sont assez lents. Ce qui fait que si quelqu'un passe rapidement, il ne verra pas. Il ne verra pas du tout ce qui se passe. S'il passe un peu plus lentement, il va s'apercevoir que les morceaux de bois sont en train de danser, un peu comme dans une boîte à moujik. Et puis, la petite musique, en fait, c'est l'international que j'ai retravaillé. Je lui ai enlevé tous les cuivres, toutes les percussions, et on a rajouté à la place des pipeaux, des orgues de barbarie, vous voyez, pour que ça donne un son très feutré, très doux et un petit peu manège ou vieux cirque. Voilà. Et alors, ce n'est ni une publicité pour le communisme, ni l'opposé. C'est juste un constat. C'est dans la sciure. Voilà, on a un petit bestiaire et puis un petit cirque. Puisque, en fait, voilà, souvent j'en reviens à ça, je fabrique des choses de cirque. Entre le cirque et puis l'objet de science-fiction, un petit peu.
Alors, je voudrais qu'on parle à présent de la transmission qui vous est chère, notamment via une association que vous avez fondée. Je le disais tout à l'heure, Art et si beau. Alors évidemment, il y a le jeu de mots avec l'art est si beau, mais tout de même, Art et si beau, c'est un radiotélescope situé sur la côte nord de l'île de Porto Rico, et c'est depuis Art et si beau qu'un message a été envoyé dans l'espace en novembre 1974, dans l'espoir qu'il serait capté par une civilisation extraterrestre. Ça signifie que vous aimez aussi lever les yeux vers les étoiles ?
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est évident. Et puis... Alors le jeu de mots était lorsqu'on nous avons dû choisir le nom à l'association m'a semblé amusant, et voilà il faut savoir que je fonctionne par amusement comme un enfant que je suis pour toujours. Je pense que ça bougera plus maintenant. Je suis resté un sale gosse qui rit avec des mauvais jeux de mots, avec voilà des blagues toutes simples. Et puis, l'art et si beau, c'est un objet sculptural extraordinaire. C'est-à-dire que c'est l'intérieur d'un volcan qui a été bétonné. Enfin, maintenant, c'est fini. Malheureusement, nous sommes les seuls art et si beau, puisque l'art et si beau est en train d'être démantelé.
Démantelé.
Et donc, nous serons les seuls art et si beau. Enfin, ce qui est triste. Hein.
Mais c'est une responsabilité.
Oui, 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 parce qu'ils étaient, voilà, eux, c'était quelque chose de très, très impressionnant, très fort. Voilà, et puis se dire que l'art et si beau, c'était un radiotélescope, ça veut dire que voir avec le son, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit que franchement, ça collait bien avec notre association, c'est-à-dire de vouloir aller tout azimut et donner la possibilité à des gens qui n'ont pas obligatoirement pris pied dans l'art, justement, de s'y balader de façon légère et sans contrainte.
Ouais. Alors, il y a des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes. Bon, il se trouve qu'un de mes enfants a fréquenté votre atelier, et ce qui me frappait, c'était que c'était pas un truc. Bon, maintenant là, les gars, on va faire ça. Vous asseyez. Non, il y avait une forme de. C'est une ruche un peu quand on entrait chez vous. Et vous faisiez confiance à la créativité, je trouve, des jeunes. Et puis, bah, évidemment, ils apprenaient beaucoup de choses. Mais c'est comme vous le disiez, c'est un peu tous azimuts et peut-être selon les aptitudes, les goûts de chacun. Vous essayez de trouver l'étrangeté légitime, pour reprendre les termes de René Char, de chacun.
Alors, oui, le but, c'était vraiment que les enfants s'y sentent bien. D'abord, vraiment, voilà, moi, je reste dans l'idée qu'il faut qu'ils aient du bonheur tout de suite, instantanément. Sinon, on ne va pas pouvoir leur vendre tout le reste. Et le reste, en sculpture, ça peut être des heures de patience, ça peut être des journées de recherche, ça peut être plein de choses, se faire mal aux doigts, se faire mal au corps. Mais voilà, il faut d'abord commencer par mettre un peu de miel là-dessus et donner l'idée que c'est un lieu de liberté, un lieu de joie, de créativité. La créativité, moi, j'essaie de ne pas toucher trop la créativité des enfants. Je fais confiance à cette créativité, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont déjà créatifs et que moi, ce que je peux leur apporter, c'est peut-être deux choses. L'autorisation de l'utiliser et puis un peu de technicité de temps en temps parce que ça va permettre d'en faire ressortir d'autres morceaux. Ça me fait toujours très peur parce que d'une certaine façon, la technicité peut aussi nuire à la créativité. Il y a des enfants qui, sans aucune technicité, me font des choses extraordinaires. Mais je sais très bien qu'un jour, ils vont le perdre. C'est-à-dire qu'en grandissant, on devient tous pareils, on se met sur des rails et on perd cette créativité au profit. Au profit de quoi ? C'est là que ça peut blesser, c'est-à-dire certains vont se réfugier seulement dans la technicité, puis d'autres vont partir ailleurs. Et moi, ce que j'ai envie, c'est pas qu'ils partent ailleurs, c'est qu'ils reviennent, qu'ils se chargent de plein de choses, qu'ils amalgament plein de choses, et puis qu'ils continuent à travailler très longtemps.
Et puis il y a des travaux collectifs. Je me souviens d'un film, d'un dessin animé par exemple, qui était vraiment, mais vraiment très très étonnant. On se dit, mais c'est eux qui ont fait ça. Ben oui, c'était eux qui ont réussi à faire ça avec votre eau, bien sûr.
Alors, très peu en fait. Une fois qu'ils ont compris, je suis du même niveau qu'eux. C'est-à-dire que très vite, je leur explique ce que je sais, voilà, la technique. Et ensuite, je leur fais vraiment confiance. C'est un lieu où il faut. Alors, sauf s'ils me prouvent que je ne peux pas avoir confiance en certains d'entre eux. Mais la plupart du temps, justement, le fait d'avoir confiance en eux fait qu'au bout d'un temps, ils n'enfreignent plus aucune consigne de sécurité. Et ils vont. C'est leur atelier. C'est chez eux. Certains arrivent, ils ont 5 ans et demi et repartent, ils ont 18 ans. C'est assez rigolo. Certains repartent, mais ensuite, ils ont même cassé les murs, c'est-à-dire qu'ils restent plus ou moins proches de l'association. Quand ils passent sur Chartres, ils viennent me voir. Ou ceux qui sont encore sur Chartres viennent me voir de temps en temps dans l'atelier. Et ça, je trouve ça assez, assez formidable. Ça a été une chose surprenante qui m'est arrivée, puisque j'avais pas prévu de donner des cours. C'est arrivé vraiment par hasard. Et puis, j'y ai pris le goût. Et puis, en fait, c'est moi qui suis plus hameçonné que les enfants ou que les adultes. J'y ai vraiment pris un vif plaisir à passer, à faire le passeur, parce que j'ai tellement trouvé de bonheur dans l'art qu'il est bien qu'on puisse l'amener à quelqu'un d'autre.
Ouais. Il nous reste 4-5 minutes. Je voudrais qu'on parle du projet que vous avez. De toute façon, on en reparlera parce que le projet n'est pas encore tout à fait commencé. Mais il allie, je le disais tout à l'heure, un souci écologique et à l'art, bien sûr, à la pratique artistique. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, en fait, je suis parti d'un constat assez évident. Là aussi, on va retrouver mon background. C'est-à-dire que les usines rejettent beaucoup de choses, et nous aussi d'ailleurs, de choses qui passent au rebut. Et ils vont être recyclés, mais le recyclage n'est pas obligatoirement la solution pour certains matériaux. Et j'ai décidé, moi je l'utilise beaucoup en sculpture, j'utilise beaucoup, beaucoup de matériaux que je reprends. ans, que je retransforme. Je ne cherche pas à ce qu'on voit, mais dans mes œuvres, que c'est du matériel recyclé. Ça ne m'intéresse pas, c'est pour moi. Mais j'ai décidé de fabriquer mon atelier, mon prochain atelier, puisque le mien commence à devenir un petit peu, de le fabriquer avec que des matériaux de récupération. Il y aura quelques matériaux neufs parce qu'on ne peut pas tout fabriquer dans un bâtiment avec du recyclage. J'imagine que ça va tourner autour de 80 à 90% de recyclés. C'est-à-dire que les murs, les fenêtres, la charpente, beaucoup de choses qui seront à l'intérieur, les cloisons, les portes, les fenêtres, seront tout en recyclé. Depuis 8 mois maintenant, j'accumule, je trie, je sélectionne et je mets en attente tous ces matériaux qui sont, les plans sont prêts pour construire un bâtiment qui sera à la fois peu énergivore, puisque les matériaux sont déjà là, ils traînaient un peu partout et je les accumule. Peu énergivore parce que je vais essayer qu'il soit autonome ou presque en eau, qu'il soit autonome ou presque en électricité. C'est pas un rêve, hein. L'autonomie c'est pas un rêve, c'est juste pour qu'il soit le plus en adéquation avec ce que je pense de tout ce qu'on doit faire maintenant. Du défi qu'on doit relever.
Oui, parce qu'il y a vraiment une dimension. Évidemment, on peut considérer que cet atelier sera une œuvre d'art en lui-même, mais vous souhaitez que ça fasse école un peu, hein ?
Oui, je pense que ça va naître de partout, de toute façon. Hein, c'est pas quelque chose, je me sens pas du tout inventeur ou quoi que ce soit dans ce domaine, mais ça va devenir une filière, je pense, où chaque morceau de bois, chaque morceau d'acier qui pourra être réutilisé tel quel, sans être refondu, brûlé, voilà, sera réutilisé tout de suite. Et le cercle sera plus court et plus adéquat. Ça peut permettre aussi de voir, je vais essayer de mettre au point des techniques, justement, puisque j'utilise des bois qui ne sont pas traités, donc il va falloir les traiter. Je vais fabriquer une petite usine de traitement des bois pour le protéger, mais pour que ce bois soit traité de façon le plus écologique possible avec des produits biosourcés et des façons relativement artisanales. Parce que voilà, je n'ai pas les capacités de lancer une industrie. Les parements du bâtiment seront eux aussi en recyclé. Enfin voilà, il y aura une grande partie du bâtiment qui sera fabriqué avec du recyclé, en gardant bien sûr en tête l'idée qu'il doit être esthétique, sans orgueil. C'est-à-dire que les plans qui sont actuellement faits font des volumes simples, créent des volumes simples, pratiques, et puis qu'ils soient... qui soit vraiment très le plus beau, enfin beau, voilà, le plus en adéquation avec son cahier des charges.
Oui. Projet éthique, esthétique et artistique. Oui. On aura le droit à une visite de chantier, vous nous promettez ?
J'espère bien, avec joie.
Ça commencera quand, dans le monde,
Alors, moi, je serai prêt dans 3 mois à peu près. J'aurai à peu près, je suis à 70%, 80% des matériaux sont déjà prêts. J'ai contacté des mairies, j'ai contacté des revues. Voilà, les revues sont partantes nationales pour retransmettre le projet. Et puis, ça va être maintenant aux mairies d'accepter ou pas le projet, parce que c'est un projet un peu particulier, donc il me faut des autorisations en amont, pas qu'on me refuse une fois que le projet est lancé.
Merci beaucoup Didier, on arrive vraiment à la toute fin de cette émission, et à très bientôt sur le chantier du futur à Récibo, tiens voilà.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.